L'événement du week-end sur le territoire, ce sera demain avec l'installation d'un nouvel archevêque de Nouméa. Après 44 années d'exercice, Monseigneur Calvé passe le relais à Monseigneur Sioné Poé. L'actualité politique et institutionnelle avec la reprise hier soir des discussions sur l'avenir institutionnel. Une visioconférence qui a réuni les délégations politiques à Nouméa et le ministre des Outre-mer du côté de Paris. Dans la région en Australie, un adolescent de 16 ans est accusé d'avoir préparé un attentat contre le leader de l'opposition. S'il est reconnu coupable, l'adolescent pourrait passer le reste de sa vie en prison. Sur le territoire, de nombreuses activités culturelles au programme ce week-end, une séance de cinéphilie spéciale Japon ou encore le retour des rendez-vous du Château Hagen. Et puis les sports avec du volley, la dernière manche ce soir d'une série de matchs amicaux entre la sélection de Nouvelle-Calédonie et celle de Wallis et Futuna. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et à la une de l'actualité, comme je le disais, Monseigneur Michel Calvé, l'archevêque de Nouméa, qui était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. À la veille de l'installation de son successeur, Monseigneur Susitino Sioné Poé, Monseigneur Calvé a été interrogé sur les 44 ans qu'il a passé à la tête du diocèse de Nouméa, Jean-François Baudin.
Plus jeune évêque de France, quand il est nommé en 1973 à seulement 35 ans, Monseigneur Calvé bat également un record de longévité en ayant occupé pendant plus de 4 décennies les fonctions d'archevêque de Nouméa. Une période marquée par de nombreux événements et temps forts, mais s'il faut en garder un, Monseigneur Calvé évoque le 150e de l'évangélisation de la Nouvelle-Calédonie qui a été célébré en 1993.
Un moment extrêmement important qu'on avait décidé de mettre en valeur, le 150e anniversaire de la première messe célébrée à Balade par les premiers missionnaires qui arrivaient, donc avec le minimum qui était possible pour des gens qui ont commencé l'évangélisation dans cet endroit, et qu'on a célébré 150 ans après, à la fête de Noël. C'était le jour même de la fête de Noël 1993, et nous avons pu célébré avec des invités. Les gens du Nord s'étaient rassemblés. Il y a eu une rencontre à Mahamat qui était assez extraordinaire, avec les coutumiers qui ont porté aussi une parole qui était forte, qui était reprise. Pour la petite histoire, on sait que ce qu'on a appelé le pardon de Balade sur la plage de Mahamat a été utilisé par ceux qui ont rédigé le préambule de la fameuse loi référendaire sur le statut de la Nouvelle-Calédonie.
De l'accord de Nouméa.
De l'accord de Nouméa.
L'histoire et la religion sont intimement liées en Nouvelle-Calédonie puisque le territoire a été évangélisé avant la colonisation et l'archevêque de Nouméa s'est beaucoup intéressé à cette histoire.
J'ai souvent insisté sur le fait que, effectivement, la rencontre entre la religion et la coutume s'est faite avant la rencontre entre la coutume et l'État en Nouvelle-Calédonie. Les protestants sont arrivés d'abord, particulièrement aux îles Loyauté. Et puis les catholiques sont arrivés ensuite, là où les protestants n'avaient pas pu s'installer. Ils ont commencé leur travail d'accoutumance, d'évangélisation, et également travail au service de la population, c'est-à-dire enseignement, c'est-à-dire dispensaire, c'est-à-dire toutes sortes de choses de ce genre. Et le premier évêque, Monseigneur Douard, mon premier prédécesseur, était déjà mort depuis plusieurs mois lorsque a eu lieu la prise de possession le 24 septembre 1853.
Monseigneur Calvé interrogé également sur la violence insurrectionnelle qui a frappé la Calédonie il y a près d'un an, en mai 2024. Comment explique-t-il la folie destructrice qu'a connue le territoire ?
J'ai essayé d'analyser, essayé de comprendre dans un premier temps, surtout quand c'est les églises qui ont été elles-mêmes attaquées. Ça s'était jamais vu. Bon, de comprendre que la volonté de nuire était une chose évidente. Ça, j'avais pas besoin qu'on m'explique deux fois. Ensuite, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai eu aucune réponse de la part, réponse probante de la part de ceux ou des milieux qui pouvaient être à l'origine de pareilles choses. Et puis finalement, je me suis dit, mais peut-être que c'est précisément parce que les églises sont des endroits où tout le monde était bienvenu, où les gens pouvaient se rencontrer. C'est pour ça qu'elles ont été attaquées. Et c'est plus grave encore que je ne pensais. Ça veut dire que symboliquement, eh bien, c'était une manière d'empêcher une réconciliation. Et donc, je pense qu'on a à tenir compte de cela et à ne pas l'accepter.
Après 44 ans dans ses fonctions, Monseigneur Calvé va être remplacé par Monseigneur Susitino Sioné Poé. Il le connaît bien et il nous a dit quelles devraient être, selon lui, ses priorités.
Il faut qu'il arrive à rencontrer le plus de monde possible pour montrer que sa mission, c'est une mission qui s'étend à l'ensemble du diocèse et les gens qui sont à l'intérieur de l'Église, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Ça, c'est une première chose. Le souci, comme je le disais, de la jeunesse. On a à faire extrêmement attention à cette jeunesse qui nous est confiée aux besoins de laquelle on a répondu pour une part, mais pas toute. Et donc ça, il va falloir continuer avec l'enseignement catholique, en dehors aussi de l'enseignement catholique, s'intéresser de près à ce qui peut être fait pour la jeunesse. Et donc il a un âge qui est déjà meilleur que le mien pour ce faire.
C'est demain après-midi qu'aura lieu à la cathédrale de Nouméa l'installation du nouvel archevêque. Une cérémonie très codifiée, souligne Mgr Calvé.
Un moment symbolique qui est important. Ce n'est pas une consécration épiscopale puisqu'il est déjà évêque, mais il va être reçu dans la cathédrale de son diocèse. Et donc, l'élément qui est un peu la clé de l'affaire, c'est ce qu'on appelle la bulle de nomination, c'est-à-dire un document qui sera montré, si vous le regardez en détail, c'est un document en latin, qui est signé du pape François. Quelquefois, il est signé du secrétaire d'État, là, il est signé du pape François, j'ai vérifié, et la signature du pape François est de plus en plus petite. C'était juste avant qu'il ne soit hospitalisé. Ce texte a été traduit, la traduction donc a été soigneusement regardée et vérifiée. J'en suis pas à m'occuper de la première traduction de bulle de nomination dans le Pacifique, puisque je m'en étais occupé pour lui à Wallis et pour Port-Vila, pour Monseigneur Jean Bosco. Et donc, celui qui est chargé de nous transmettre cette bulle de nomination, c'est le nonce, le délégué apostolique, qui réside en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est lui qui va transmettre la traduction. Alors, ou il le lit lui-même, ou s'il trouve que son français est un peu hésitant, il le fait lire par quelqu'un, ce qui est probable.
Une interview de Mgr Calvé qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45, et vous pourrez aussi la retrouver en audio sur notre site internet.
Une journée donc très particulière demain pour le diocèse de Nouméa qui va vivre l'installation de son nouvel archevêque, Mgr Susitino Sionepoe. Des milliers de fidèles sont attendus pour partager cet événement qui se déroulera à la cathédrale de Nouméa, Jean-François.
Et les portes de la cathédrale seront ouvertes dès 13h pour permettre à ceux qui le souhaitent d'assister à la cérémonie, même si la messe ne débutera qu'à 15h. La chorale qui animera cette célébration réunira 80 choristes venus des différentes paroisses du Grand Nouméa. À quelques heures de cette messe d'installation, c'est l'effervescence dans la cathédrale de Nouméa, avec comme maître d'organisation le père Jean-Paul Pouillet.
C'est vraiment les dernières retouches, les derniers petits détails à vérifier, mais tout est déjà bien en place, et parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de monde discrètement qui se sont activés, et c'est très beau. C'est beaucoup de mise en place, puisque nous serons nombreux et donc il faut qu'il y ait un nombre limité de personnes dans la cathédrale. Nous ne pourrons pas accueillir tout le monde à l'intérieur du bâtiment et sur l'esplanade un dispositif d'accueil avec un écran géant, avec des chaises supplémentaires ont été préparés. Donc c'est la disposition de tout ce matériel mais aussi l'accueil des invités. Nous avons beaucoup d'évêques, de prêtres ou d'autres représentants de congrégations religieuses qui nous rejoignent. Je pense au nonce apostolique, le délégué apostolique représentant du pape qui vient de Nouvelle-Zélande. Je pense à l'équipe du séminaire de Fidji, le recteur et un des enseignants qui a eu Mgr Susitino comme de ses élèves il y a quelques années. Eh bien, ils sont arrivés de Fidji et puis d'autres de Tahiti, de Guam, de Samoa aussi qui viendront.
De nombreuses personnalités assisteront à cette cérémonie d'installation. 11 évêques seront présents dans le chœur de la cathédrale. Ils seront entourés par 25 prêtres, 18 diacres et 9 enfants de chœur. Les fidèles qui n'auront pas pu trouver une place dans la cathédrale pourront suivre la cérémonie depuis l'extérieur sur l'esplanade. Et ce sont les danseurs de la troupe du Wetsch de l'IFU qui accompagneront le nouvel archevêque pour son entrée dans la cathédrale.
Les portes ouvriront à 13h. La messe commencera légèrement avant 15h par une belle procession où des danseurs kanak vont escorter la procession jusqu'au porche de l'église. Puis nous rentrerons à 15h dans la cathédrale pour le déroulement de la messe solennelle. Le rite principal, c'est quand le nonce va transmettre le document officiel qu'on appelle une bulle. C'est cela qui va être le rite principal au tout début de la messe, la lecture de la traduction du texte officiel qui nomme Mgr Sionepoe archevêque de Nouméa. Mgr Calvé passera le relais à Mgr Sionepoe et c'est Mgr Sionepoe qui présidera lui-même la messe, qui prononcera l'homélie et qui dira à la fin un petit mot de remerciement.
L'accueil et l'installation du nouvel évêque constituent un véritable événement pour l'église de Nouvelle-Calédonie et à cette occasion, à la veille du dimanche des Rameaux, la couleur liturgique sera le blanc, précise le père Jean-Paul Pouillet.
Nous sommes dans une période de transition, nous sortons du carême. Le carême est associé avec la couleur mauve, d'une couleur de pénitence, mais dès ce dimanche, nous rentrons dans la semaine sainte. Et en fait, la couleur liturgique du jour de l'accueil, ça sera du blanc. Vraiment jour de fête, jour de joie, jour d'action de grâce. Donc tout sera en blanc. Donc aujourd'hui, encore vendredi matin, tout n'est pas installé. Nous attendrons demain le jour même pour mettre dans les bonnes couleurs liturgiques. Ce sera une messe hors du temps, une messe très particulière pour accueillir celui qui nous est envoyé comme pasteur de l'Église. Donc j'encourage vraiment toute la population à prier pour le bon déroulement de cette journée et puis surtout pour celui que nous accueillons. Et il y a une phrase du dimanche des Rameaux qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Eh bien, je crois que ça va être notre prière. Béni soit Monseigneur Tino qui vient au nom du Seigneur pour nous accompagner, pour nous guider. Nous, les chrétiens de Calédonie, eh bien, on veut travailler dans l'unité. Et un des rôles de l'évêque, eh bien, c'est d'encourager, de fortifier cette unité entre nous.
Une cérémonie exceptionnelle, donc demain après-midi en la cathédrale de Nouméa. Notez que pour l'occasion, la rue Frédéric-Surlot sera fermée à la circulation à partir de midi et jusqu'à la fin de la célébration aux environs de 17h.
Passons à l'actualité judiciaire. Le procès des trois individus majeurs ayant participé aux altercations, c'était au 1880, était renvoyé au 17 juin prochain. N'ayant pas d'antécédents judiciaires, ils ont comparu libres ce matin. Les juges du tribunal correctionnel ont suivi les réquisitions, ont placé les trois hommes qui sont âgés de 23, 25 et 28 ans sous contrôle judiciaire, mais n'ont pas retenu l'obligation de pointage. Ils ont, en attendant le procès, l'interdiction de porter ou de détenir une arme, de se rendre à proximité du 1881 et d'entrer en contact avec les plaignants et les autres prévenus. Le quatrième individu, déféré étant mineur et défavorablement connu de la justice, a été placé en détention provisoire en attendant son procès au tribunal pour enfants, un procès qui aura lieu le 23 avril.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec notre question du jour. Après un séjour d'un peu plus de 2 ans, marqué notamment par les violences insurrectionnelles, regrettez-vous le départ du haut-commissaire Louis Lefranc ? Si vous regrettez son départ, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. Maintenant, 50% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la proposition de Laurent Wauquiez d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF du côté de Saint-Pierre et Miquelon est une bonne idée. Ils sont aussi 50% à se dire choqués par cette proposition. 17h59, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Léo Fichou.
À la une de l'actualité politique et institutionnelle, Manuel Valls qui doit revenir en Calédonie à la fin du mois. Avant le retour du ministre des Outre-mer, les discussions sur l'avenir institutionnel ont repris hier soir en visioconférence. Une première séance qui a eu lieu en fin d'après-midi au commissariat en présence de tous les groupes politiques, Jean-François Bonnet.
Oui, les délégations des loyalistes du Rassemblement de Calédonie Ensemble, de l'UNI, de l'UCFLNKS et de l'Éveil Océanien ont échangé avec Manuel Valls et le cabinet du ministre des Outre-mer pour poursuivre les échanges qui avaient débuté fin mars début avril à Nouméa. Les discussions portent sur le projet d'accord politique proposé par l'État et hier soir, deux sujets ont été débattus, celui de l'autodétermination et celui de la loi fondamentale. Peu de déclarations à l'issue de ces échanges, mais Virginie Rufnac a exposé la position du groupe Rassemblement. S'il y a une volonté et un projet d'accord, il doit y avoir des mouvements de part et d'autre. Les indépendantistes, dit-elle, ne peuvent pas rester figés sur leur position.
Nous, ces dernières années, nous avons fait beaucoup d'efforts, beaucoup de pas en avant. Nous considérons aujourd'hui que le camp indépendantiste doit exprimer ce qu'il est capable de faire en termes de mouvement dans le cadre de ces discussions. Parce que si nous avons un camp totalement figé en face de nous, bien nous, de notre côté, nous n'irons pas à l'accord. C'est ça la réalité. Donc c'est un petit peu le sens de nos interventions de ce soir. Nous avons fait, nous, dans le passé, beaucoup, beaucoup d'efforts avec des citoyennetés restreintes, avec des systèmes institutionnels particulièrement originaux, beaucoup de compétences pour la Nouvelle-Calédonie qu'on n'est pas d'ailleurs en capacité d'assumer aujourd'hui. Tout cela pour finalement satisfaire, et l'État nous y a poussé, une exigence de la part des indépendantistes d'avoir toujours plus d'autonomie, toujours plus de responsabilité. Or, le président de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui montre que nous avons beaucoup de difficultés à assumer la très grande autonomie qui nous a été confiée. Donc nous, ces discussions, elles sont par le prisme de l'intérêt des Calédoniens, et nous ne sommes pas prêts à un accord à tout prix. Il y aura accord s'il y a des mouvements de part et d'autre, mais à ce stade, pour l'instant, ils ne sont pas forcément évidents.
Et après cette première séance, plusieurs visioconférences du même type doivent avoir lieu jusqu'au retour de Manuel Valls, prévu le 29 avril pour une dizaine de jours.
Et notez que l'actualité politique sera marquée ce week-end par l'Assemblée Générale du Palika. Elle a lieu demain à Point-d'Imier, à la tribu de Saint-Thomas. Le parti doit faire le point avec ses militants sur la campagne d'explication engagée avant la dernière séquence de discussion à Nouméa sur les discussions et les négociations en cours et aussi sur la situation institutionnelle. Les travaux doivent s'ouvrir à 8h30. La première étape de cette audite sur l'impact des protections de marché sur l'économie calédonienne a été lancée ce matin. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, anime une réunion d'information et d'échange sur la mission de cette audite. Charlotte Coulson.
L'objectif est d'abord d'établir un cahier des charges. Il doit permettre de dégager des pistes pour réformer le modèle calédonien. Le gouvernement a notamment fait le constat que l'absence de concurrence dans certains secteurs et certaines mesures ont pour effet d'affaiblir le pouvoir d'achat des Calédoniens. Un cabinet indépendant sera donc mandaté pour évaluer la pertinence et l'efficience des dispositifs en vigueur. Aujourd'hui, la DAE compte 338 marchandises concernées par une mesure de régulation de marché, environ 80% pour des mesures quantitatives comme les stops et les quotas et 20% par des mesures tarifaires. L'audit aura donc pour but d'évaluer les mesures qui pourraient améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens tout en soutenant les entreprises locales et l'emploi. Écoutez Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie.
C'est un audit qui est extrêmement important parce que ça permet de mettre de la transparence dans les protections de marché, dans les régulations de marché. Je crois que c'est un sujet qui fait polémique souvent et on a voulu avoir un panel assez large qui va à la fois des organisations patronales mais aussi des syndicats de salariés et des associations de consommateurs pour travailler sur le cahier des charges de cet audit pour qu'on ait un audit qui ne soit pas contesté au final et qu'on puisse avoir un soutien à l'industrie locale. Ça, il n'y a pas de souci particulier. Mais il faut que la Nouvelle-Calédonie elle soit en capacité de s'ouvrir. Il faut que la Nouvelle-Calédonie elle soit en capacité de ne pas pénaliser le consommateur. On a d'autres leviers aussi pour soutenir l'industrie locale que les régulations de marché. On a des soutiens à l'énergie, aux charges sociales. Et les régulations de marché, elles doivent être utilisées pour des cas bien précis. Et donc, cet audit, ça doit permettre d'évaluer. Parce que quand on met en place des mesures de soutien, il faut évaluer les mesures qu'on met et ensuite faire des recommandations sur quelles filières on souhaite soutenir. On a des formidables industriels en Nouvelle-Calédonie. On souhaite valoriser un certain nombre de produits locaux. Par contre, il y a des protections de marché qui sont abusives et donc il faut réformer.
L'audit est financé par l'État via l'AFD. Un appel d'offres va être lancé très prochainement.
Et de son côté, le Conseil économique, social et environnemental était réuni en séance plénière ce matin. Ses membres ont examiné un avant-projet de loi du pays présenté par le gouvernement. Il concerne des dispositions relatives au droit du travail et à la protection sociale en réponse à la crise de mai 2024. Un avis favorable a été rendu à la majorité, Charlotte.
En premier lieu, c'est un texte sur la présomption de démission en cas d'abandon de poste dans une entreprise qui a été étudiée, une mesure qui serait temporaire. Autre texte étudié lors de la séance du jour, le versement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Jean Saucé est présidente de la commission de l'enseignement, de l'éducation, du travail et de la formation au CESE.
Vous savez que pour la maladie, en Nouvelle-Calédonie, à l'inverse de la métropole, la prise en charge est faite par le patronat, par les employeurs. En gros, pendant 3 mois, avec des taux de pourcentage différents, puisque c'est 100%, 90%, 66%. Mais là-dessus, il y a des jours de carence. Et donc les jours de carence, jusqu'à aujourd'hui, elles sont plus ou moins indemnisées en partie pour la perte de salaire par la CAFAL. Et là, on demande à ce que ça ne le soit plus à partir de la cinquième jour de carence. C'est pour éviter les abus, quoi. Hein.
Une troisième disposition a été étudiée par les membres du Conseil. Elle vise à créer une procédure accélérée pour statuer rapidement sur les litiges qui a trait au droit du travail, notamment pour valider les abandons de poste ou licenciements. À noter qu'une vingtaine de recommandations ont été émises par les membres du CESE, comme la relance du contrôle médical par la CAFAT ou encore l'obligation pour les salariés de faire prolonger leur arrêt de travail par le même médecin.
L'actualité dans la région en Australie avec le prochain procès d'un adolescent de 16 ans devant la Cour suprême du Queensland. Il est accusé d'avoir préparé un acte de terrorisme contre le leader de l'opposition fédérale, Peter Doughton. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
Les faits reprochés à cet adolescent de 16 ans se sont produits en milieu d'année dernière, alors qu'il était inscrit dans l'une des écoles privées les plus réputées de Brisbane. Après plusieurs mois d'enquête, la police fédérale et celle du Queensland ont établi que l'adolescent, qui ne peut être nommé en raison de son âge, avait décidé d'attaquer Peter Dutton et sa famille dans la propriété rurale que le couple possède au nord de Brisbane. Pour ce faire, l'étudiant avait testé plusieurs types d'explosifs, dont certains qu'il avait lui-même conçus, pour voir lequel d'entre eux serait le plus efficace. Il avait également acheté un drone dans l'intention de mener à bien son attentat, lequel a cependant été déjoué. Inculpé pour avoir fomenté un acte de terrorisme, le jeune homme, qui était en détention depuis son arrestation, a été avisé hier qu'il va devoir comparaître devant la Cour suprême du Queensland pour y répondre des faits qui lui sont reprochés. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, l'adolescent pourrait passer le reste de sa vie en prison.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Alifou, c'est le 102.5.
Et de retour sur le territoire avec de nombreuses activités culturelles au programme. Ce week-end, on commence ce tour des sorties avec un rendez-vous qui devrait attirer les cinéphiles, particulièrement les fans d'animation japonaise, Charlotte.
La ville de Nouméa organise en effet une séance de cinéphilie en famille pour découvrir les deux films de deux géants du genre, Hayao Miyazaki et Isao Takahata, aussi connus pour avoir fondé le mythique studio Ghibli. De Mon voisin Totoro à Princesse Mononoke, en passant par Le vent se lève, leurs œuvres seront revisitées demain à la Maison de la Parole, à partir de 14h, l'entrée est gratuite.
Culture, toujours, le Château Hagen reprend ses rendez-vous mensuels avec un après-midi dédié aux arts organisés par la province sud demain.
5 artistes calédoniennes viendront présenter leur technique de travail à travers plusieurs ateliers ouverts au public. On écoute les précisions d'Almudena Lorenzo, responsable du Château Hagen.
Alors effectivement, la province sud a souhaité reprendre les manifestations artistiques au Château Hagen. On avait eu une saison 2024 un petit peu compliquée, donc là on reprend les bonnes habitudes. Depuis le 8 mars dernier, Journée internationale des droits de la femme, nous avons accueilli une exposition intitulée Elle, et donc on a voulu clôturer cette exposition en invitant ces femmes artistes calédoniennes à organiser des ateliers avec le public, des ateliers artistiques avec des techniques vraiment différentes. Par exemple, des fabrications d'enveloppes, il y en a d'autres, c'est avec de l'encre de Chine, des linogravures, donc vraiment des choses très différentes à venir découvrir et à consommer sans modération.
Et le programme complet est à retrouver sur la page Facebook du Château Hagen. L'entrée est libre et gratuite et il y aura bien sûr de la restauration sur place.
D'autres créations artistiques à découvrir cette fois, c'est du côté du Quai Ferry où se tient le Tropical Market.
Avec au programme de nombreux artisans à découvrir, mais aussi des animations musicales et même des activités sportives. Le Tropical Market se déroule samedi de 8h à 17h15 et puis dimanche de 9h à 15h.
Un week-end également placé sous le signe de la solidarité.
Et oui, le Lions Club Deliciosa organise son traditionnel loto demain de 11h à 17h à la mairie du Mont d'Or. L'objectif de cette organisation caritative est bien sûr d'aider les familles dans la précarité. Et puis le collectif Les Sans Voix organise demain encore un vide-grenier de 8h à 11h30 au Humvee Lounge. Les fonds récoltés serviront à aider les animaux abandonnés.
Et enfin, on referme ce programme du week-end avec un peu de nature. L'association Droit au Vélo organise demain matin une plantation sur une parcelle de forêt sèche au Wentoro. Le rendez-vous est donné à 8h30. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir les spécialités culinaires locales dans un cadre verdoyant, le marché des saveurs de Mamie se déroule à Farino ce dimanche de 8h à midi. 18h passées de 11 minutes, dernière pause dans ce journal. On parlera sport juste après.
Les rendez-vous des aidants 2025 reprennent ce lundi 14 avril à 17h30 dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Le Lions Club et le CCAS vous proposent des échanges sur le thème « Préparer sa fin de vie ». Si vous êtes aidant, venez nous rejoindre pour écouter des conseils pratiques sur cette étape cruciale. Osez pousser la porte, des professionnels pourront vous aider.
Pendant les vacances, Bureau Vallée pense à vous. Les rayons Beaux-Arts, Loisirs Créatifs et Librairies sont à moins 20%. Rendez-vous dans votre magasin Bureau Vallée Magenta, ouvert en continu de 8h à 18h du lundi au samedi.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable du 5 au 19 avril 2025.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Léo Fichou.
Oui, on ouvre nos pages sport avec du football. Le retour de la Ligue 1 après les quarts de finale des Coupes d'Europe, Jean-François.
Et en ouverture de la 29e journée du championnat de France, Lens accueillera Reims demain matin. Coup d'envoi de la rencontre à 5h45. Dans la nuit de samedi à dimanche, duel au sommet entre Monaco 3e et Marseille 2e, avant que Toulouse reçoive Lille et que Nice se déplace à Strasbourg. Dans la nuit de dimanche à lundi, 4 rencontres seront au programme. Saint-Étienne-Brest, Angers-Montpellier, Le Havre-Rennes et Auxerre-Lyon.
En rugby, 4 clubs français disputeront les quarts de finale de la Champions Cup ce week-end.
L'Union Bordeaux-Bègles ouvrira le bal à 1h dans la nuit de samedi à dimanche face au Munster, tombeur du Stade Rochetais en 8e. À 3h30, il faudra suivre la rencontre entre le Castres Olympique et les Saints de Northampton, vainqueur de Clermont au tour précédent. Enfin, un duel 100% français dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin entre Toulon et le Stade Toulousain.
En rugby, toujours les féminines du 15 de France seront opposées au Pays de Galles dans le cadre de la 3e journée du tournoi des 6 Nations. Le coup d'envoi sera donné demain soir à 22h45 et dans les autres rencontres du tournoi des 6 Nations, l'Irlande accueillera l'Angleterre et l'Italie ira défier l'Écosse. Du tennis aussi avec les quarts de finale du Masters 1000 de Monte Carlo.
Et du beau monde encore en lice avec notamment le numéro 1 tricolore Arthur Fils qui jouera contre Carlos Alcaraz. Stefanos Tsitsipas affrontera Lorenzo Musetti et puis les deux Australiens Alexei Popirine et Alex de Minaur seront opposés à Alejandro Davidovic, Fokina et Grigor Dimitrov.
On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et pour le 4e Grand Prix de Formule 1 de la saison, les pilotes sont à Bahreïn.
Oui, et sous la chaleur, sur le circuit de Sakhir, qui a été le théâtre des essais hivernaux. Il fera souvent plus de 30 degrés dans l'air et plus de 50 degrés sur la piste. Un circuit extrême, estime le français Esteban Ocon, qui pilote cette saison une Haas.
C'est un peu la maison de la Formule 1 ici. On va dire que voilà, toutes les années, on a commencé par cette course. Là, on est un mois plus tard, il fait beaucoup plus chaud. Ouais, c'est un circuit intéressant, c'est un circuit qui est vraiment extrême pour la dégradation des pneus, pour... Ouais, la gestion des freins, de l'essence, enfin, vraiment c'est un circuit qui est compliqué. On a fait un petit peu le yo-yo avec la performance et il faut qu'on arrive à réussir à exploiter voilà, cette voiture à chaque fois.
Au départ du Grand Prix de Bahreïn à 2h dans la nuit de dimanche à lundi.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
La Formule 1 à Bahreïn et le MotoGP au Qatar. Les pilotes ont rendez-vous sur le circuit de Luzaï pour, là aussi, le 4e Grand Prix de la saison. Un Grand Prix, encore une fois, dominé sans doute par les frères Marquez. La réponse sera donnée dans la nuit de dimanche à lundi à 4h. Ce sera donc à suivre juste après la Formule 1. Un mot de golf maintenant avec le Masters d'Augusta ce week-end.
Oui, c'est le rendez-vous de l'année avec les meilleurs golfeurs de la planète qui s'affrontent depuis hier sur ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison sur le parcours d'Augusta après la première journée. C'est le vétéran britannique Justin Rose qui est en tête avec une carte de 65, c'est-à-dire 7 coups en dessous du par. Trois hommes sont à 3 coups derrière lui, le Suédois Ludvig Åberg, le Canadien Corey Connors et l'Américain Scottie Scheffler, numéro 1 mondial. Le seul Français dans cette compétition, Mathieu Pavon, est aujourd'hui 87e. Il a rendu une carte de 76, c'est-à-dire 6 coups au-dessus du par. Il va se battre la nuit prochaine pour nous pour tenter de passer le cut et poursuivre l'aventure pendant le week-end.
Et avant de voir les rendez-vous sport du week-end sur le territoire, parlons des Calédoniens qui disputent des compétitions internationales.
Suzanne Wajoka est avec l'équipe de France de handball. Elle dispute 2 matchs amicaux contre les Pays-Bas en cette fin de semaine. Le premier match remporté 31-25. Le second est prévu à 3h dans la nuit de samedi à dimanche. À Melbourne, en Australie, il y a des compétitions d'haltérophilie et de squash. 4 Calédoniens participent aux Oceania Junior et à la Pacific Cup Senior d'haltérophilie. 6 jeunes disputent l'Open Junior de squash.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Et sur le territoire maintenant, on parle de volley avec la fin d'une semaine amicale entre les sélections calédoniennes et celle de Wallis et Futuna.
Oui, c'est la 4e soirée après celle de Nouméa, du Mont-d'Or et de Dumbéa. C'est donc à Païta que ça se passe. Depuis 3 jours, les victoires s'enchaînent chez les hommes comme chez les femmes. Pour Moïse Kalimou, président de la Ligue calédonienne de volley, ces matchs sont une bonne manière de jauger les forces adverses.
Historiquement, par rapport au volleyball, on a toujours été dans toutes les compétitions internationales, que ce soit sur les mini-jeux et les jeux, on arrive toujours à se rencontrer en demi-finale ou en finale. Donc ouais, il y a une histoire historique par rapport aux rencontres sportives. Et il était très important hein, de préparer les rencontres et jouer avec eux et de bien connaître leur façon de jouer pour mieux préparer 2027. C'est le dernier match, c'est la fin de la tournée. Donc on invite tout le monde, hein, tout le mouvement sportif, toutes les personnes qui est passionnées du volleyball, même aussi le grand public pour venir regarder des beaux spectacles, des beaux matchs.
Et ces matchs de clôture ont débuté à l'Arène du Sud de Païta. Les femmes sont sur les parquets depuis 18h. Les hommes suivront à 20h.
Et pour être complet sur l'actualité du volley, notez que demain, dans le Nord, les premiers matchs de la saison se joueront à Ponériouin. 5 matchs hommes et 5 matchs dames au programme dès 9h et jusqu'à 18h. Après le volley, place au trail, l'OSEF Full Moon Trail.
Les amoureux de course en pleine nature ont rendez-vous à Nessadiou, à l'Auberge du Pêcheur, pour une soirée sportive conviviale et festive. Plus de 500 coureurs seront réunis sur deux parcours. 4,5 km et 12,5 km.
On reste en extérieur avec du VTT à Tontouta dimanche.
Le VCC Mondor organise son traditionnel souvenir Didier Portera. Dimanche donc, à partir de 8h, sur le terrain au bord de la base aérienne de la Tontouta, les concurrents parcourront un circuit de 8 km 300 et effectueront entre 1 et 4 fois selon les catégories.
Faites chauffer les moteurs, c'est le retour du drift à Tomo Valley.
Oui, et faites chauffer les pneus aussi. La première manche du Red Bull King of Drift, une journée intense avec de la compétition et du spectacle. Les meilleurs pilotes du territoire vont s'affronter pour le titre de roi du drift. Rendez-vous à Tomo Valley dès demain 9h pour suivre la première run qualificative. Les finales sont prévues en soirée à 20h.
Et on termine cet agenda sportif du week-end avec du breakdance, sport olympique depuis les Jeux de Paris l'an dernier. Ce sera demain dès 14h. Le Rex de Nouméa accueillera le championnat régional de breaking de Nouvelle-Calédonie. 3 catégories, les garçons de moins de 16 ans, les filles de moins de 16 ans et puis les garçons de plus de 16 ans. Les gagnants partiront en métropole pour les championnats de France. Ce sera en mai du côté de Toulouse. Après les sports, sur Radio Rythme Bleu, on parle météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Allons-y. Alors, cette nuit, sur la pointe sud, l'île des Pins et les Loyautés, des remontées nuageuses déposeront quelques averses. Sur le nord-est, la pointe nord et Bélep', nuages et averses persisteront. Sur les autres régions, le ciel sera étoilé. Le vent de sud-est se maintiendra le plus souvent entre 15 et 20 nœuds sur la côte ouest, le sud de l'île des Pins. Puis la côte est et aux Loyautés, il sera plus faible et soufflera autour de 15 nœuds. Les températures minimales augmenteront entre 24 et 25 degrés, localement 22 degrés. Ce sera sur l'ouest et marée. Demain matin, nuages et averses continueront de circuler sur l'extrême sud, l'île des Pins et les Loyautés. Ailleurs, le soleil dominera. Sur le nord-est et aux Loyautés, l'alizé de sud-est sera compris entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, il soufflera entre 15 et 20 nœuds, voire autour de 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur l'ouest.